Radio Prague, les informations.
Ouverture à Prague d'un congrès des jeunes membres de l'armée du salut de toute l'Europe. Le premier ministre tchèque Jiří Paroubek a confirmé que Vladimír Dalianin sera l'un des deux candidats chauds au poste de ministre de la Culture. La police tchèque a constitué une équipe spéciale chargée d'examiner l'opération policière à la Czech Tech 2005. À Prague a été ouvert un congrès des jeunes membres de l'armée du salut de toute l'Europe. Y participent quelques 96 participants. Le congrès qui accueillera le chef de l'armée du salut mondial John Larson culminera samedi soir par un concert public. Des discussions sur des thèmes bibliques ainsi que sur des questions se rapportant à la vie quotidienne des jeunes chrétiens sont au menu du congrès. Le premier ministre Jiří Paroubek a confirmé que Vladimír Dalianin, commissaire de la participation tchèque à l'exposition universelle Expo 2005, au Japon sera l'un des deux candidats chauds au poste de ministre de la Culture. Sa nomination éventuelle inquiète une partie des représentants de la culture. La police tchèque a constitué une équipe spéciale chargée d'examiner l'opération policière à la Czech Tech 2005. Elle invite le public à lui offrir les enregistrements vidéo disponibles. Certains meneurs et participants ainsi que le sénateur Jaromír Štětina refusent de le faire. Une manifestation du mouvement Falun Gong contre la violation des droits de l'homme se déroula ce vendredi à Prague. Ses participants veulent ainsi rappeler la persécution en Chine dont ils sont l'objet depuis 6 ans. Samedi prochain, l'ancien président Václav Havel se verra décerner au Rudolfinum de Prague le titre de docteur honoris causa qui lui sera décerné par une école américaine de managering qui a son siège à Čelákovice près de Prague. Le Sénat a rejeté l'amendement de loi sur les églises qui avait été présenté par Pavel Dostal, ministre de la Culture, récemment décédé. La loi fait l'objet de critiques de l'Église catholique notamment. Ouverture ce jeudi soir de la 5e édition du festival de musique Sazafest dans la ville de Sazava. Pendant 4 jours, 120 musiciens et interprètes, dont les 2 superstars, Aneta Langerová et Vlastimil Horvat, se présenteront sur 6 scènes. Météo, un ciel à moitié dégagé, des températures diurnes légèrement au-dessus de 20 degrés sont prévues pour ce vendredi qui est le jour de fête de Ludwig. Pendant le week-end, la météo sera marquée par des averses et il fera un peu plus froid. C'était le journal de Radio Prague préparé par Alena Kebertová.
Faits et événements en République tchèque. Václav Richter.
Les opinions sur la récente Free Party continuent à diviser la société tchèque. La loi sur la pénalisation des chauffeurs a été renvoyée à la Chambre des députés par le Sénat. L'industriel Tomáš Baťa désire blanchir le passé de sa famille. La place Venceslas de Prague changera de visage. Les participants aux festivités à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain Adalbert Stifter viendront par train. Voilà le menu de cette émission préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. Vendredi dernier, Jiří Paroubek fêtait ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement, 100 jours durant lesquels il a réussi à faire remonter le Parti social-démocrate, CSSD, dans les sondages et à se hisser parmi les hommes politiques préférés du pays. Mais depuis ce week-end, à l'intervention musclée des forces de l'ordre lors du festival techno Czech Tech, ses adversaires tentent de reprendre le dessus. Détail avec Alexis Rosenzweig.
Cela pourrait paraître paradoxal, c'est le Parti civique démocrate, ODS, conservateur, qui critique le plus l'intervention de la police contre les toughers, alors que l'année dernière, les responsables de ce même parti avaient critiqué le gouvernement pour sa réaction trop tardive et dénoncé à grands cris le manque de mesures prises pour protéger la propriété privée. Paradoxal, cela ne l'est en fait qu'à moitié. L'ODS voit que c'est une chance, estime l'analyste Daniel Kunstadt dans Hospodářské noviny, une chance de profiter du fait que l'opinion a mal perçu ces événements. C'est du pur pragmatisme, poursuit-il. Václav Klaus, toujours président d'honneur de l'ODS, a été l'un des premiers à réagir en qualifiant l'intervention d'erreur grossière. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État et le Premier ministre s'affrontent par médias interposés. Et Jerzy Parubek, qui a interrompu ses vacances pour se rendre mercredi sur les lieux des affrontements, y voit une explication simple.
Monsieur le Président s'est rendu compte que ma cote de popularité auprès du public était en augmentation. Il se comporte toujours, et de plus en plus, comme le président d'honneur de l'ODS.
L'une des étoiles montantes de l'ODS, le maire de Prague, Pavel Bem, tente également de profiter de la situation. Malgré les plaintes des Pragois, il refuse d'intervenir contre les teufeurs qui se sont repliés sur la capitale avec camions, musique et chiens. Pavel Bem.
Si jamais ces manifestations se transformaient en technoparty nocturne, j'ai bien peur que les Pragois voient alors quel résultat peut avoir une intervention non professionnelle et non justifiée de la police tchèque réalisée avec l'accord du premier ministre Paroubek et du ministre Bublan.
Les sénateurs, dont la majorité sont membres de l'ODS, Václav Richter vous l'a déjà dit, devraient jeudi débattre du bien fondé et des méthodes de l'intervention des policiers anti-émeutes, des méthodes très critiquables si l'on en juge par certaines images tournées sur place. La veille, des milliers de personnes se sont encore rassemblées devant le ministère de l'Intérieur, ainsi que dans d'autres villes du pays pour dénoncer un retour de l'État policier. Et c'est la première fois depuis 1989, exception faite de la crise de la télévision publique, que de tels happenings se poursuivent pendant plus de 3 jours en République tchèque. Un premier défi que Jerzy Parubek va devoir relever très vite s'il ne veut pas que ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement ne restent la seule période faste de son mandat.
Tomáš Baťa, fils du fondateur de l'Empire de la chaussure Baťa, Bata, demande la révision du procès de 1947 au terme duquel l'ancien chef de l'entreprise familiale et son oncle, Jan Antonín Baťa, a été condamné à 15 ans de prison pour collaboration avec les nazis. Il ne demande pas la restitution des biens familiaux confisqués, mais la réhabilitation de l'honneur de la famille. Jarka Gisiblova.
C'est en 1894 que l'un des premiers self-made men du pays, Tomáš Baťa Senior, a ouvert à Zlín, ville de Moravie centrale, son premier atelier de chaussures. Dans les années 1920, ces usines vivent un boom, mais la mort de Tomáš Baťa en 1932, dans un accident d'avion, est un premier coup dur. C'est alors que son frère Jan Antonín Baťa devient l'héritier de la firme et continue l'expansion jusqu'au début de la guerre, où il est arrêté par la Gestapo et s'enfuit au Brésil. Pendant la guerre, les activités familiales sont reprises par Tomáš Baťa Jr., installé au Canada. Après la guerre, les usines Baťa à Zlín sont étatisées. Jan Antonín Baťa, qui les a dirigées après la mort de son frère, est condamné dans un procès s'appuyant sur le décret du président Beneš à 15 ans de prison pour collaboration. Aujourd'hui, son neveu Tomáš Baťa, 91 ans, demande au parquet général tchèque que le procès de son oncle soit révisé. Il le fait dans le but de réhabiliter l'honneur de toute la famille Baťa. Comme il dit, la condamnation injuste de Jan Antonín constitue une tache à sa réputation. Et il vient avec de nouvelles pièces devant prouver que le procès était manipulé. Dans sa cause, il est appuyé par le préfet de la région de Zlín, Libor Lukáš, lui aussi convaincu que le procès était manipulé. Les plus récentes recherches ont révélé que le procès a été préparé par un communiste fanatique, Bedřich Pokorný, le tribunal dit « national révolutionnaire » constitué pour punir les traîtres et collaborateurs et dont les verdicts étaient sans appel, a condamné en 1947 Jan Antonín Baťa à 15 ans de réclusion par contumace. Sa culpabilité consistait dans le fait qu'il ne s'était pas déclaré publiquement partisan du gouvernement tchécoslovaque exilé à Londres. La reprise du procès est incertaine. Les experts judiciaires sont très prudents dans leurs évaluations puisqu'il s'agit du thème sensible des décrets Beneš qui pourrait créer un précédent pour d'autres demandes.
Le médiateur de la République, Otakar Motail, qui il y a 10 ans exerçait les fonctions de juge de la Cour supérieure et avait refusé la plainte soumise par les filles de Jan Antonín Batia, se déclare aujourd'hui prêt à réexaminer le verdict. Or, les chances de révision du procès sont d'après lui minimes, compte tenu l'impossibilité d'appliquer la législation actuelle à la juridiction exceptionnelle des années d'après-guerre.
Tout le monde est d'accord, la situation sur la route tchèque est intenable parce que les chauffeurs manquent de discipline et les infractions au code de la route sont un phénomène courant. Depuis quelque temps, les députés cherchent à améliorer ces situations par un système à points. Selon leur projet, le conducteur qui accumulerait plus de 12 points de pénalité perdrait son permis. À l'issue d'un long débat, le projet de loi, qui selon le ministre des Transports, Milan Szymonowski, pourrait réduire de moitié le nombre de morts sur la route, a été adopté à la Chambre des députés. Néanmoins, c'est au Sénat, la chambre haute du Parlement, qu'il s'est heurté à des critiques sévères. Ce mercredi, les sénateurs ont renvoyé la loi à la Chambre des députés avec une série de projets de modifications qui, selon les critiques de ces changements, adoucissent trop la loi et risquent de la rendre inefficace. Les sénateurs ont augmenté le nombre de points de pénalité de 12 à 18, ont repoussé l'entrée en vigueur de la nouvelle à janvier 2007 et ont supprimé l'interdiction de doubler sur les autoroutes pour les camions. La sénatrice Sonia Paukertová explique pourquoi.
On a supprimé l'interdiction de doubler pour les camions sur l'autoroute, mais nous avons également fixé la vitesse minimum sur l'autoroute à 80 km. Je pense donc que cela ne posera pas de grands problèmes parce qu'il n'y aura plus sur les autoroutes de camions à via qui n'arrivent pas à dépasser la vitesse de 60 km/h.
Les modifications de la loi ont été appuyées notamment par les sénateurs du Parti civique démocrate, principale formation de l'opposition tchèque qui est fortement représentée au Sénat. Ils reprochent aux députés d'avoir rédigé une loi bâclée et ont décidé de l'améliorer. Ils avouaient aussi que le projet initial leur semblait trop sévère. Pour le ministre des Transports, Milan Szymonowski, c'était cependant un compromis qui n'était pas parfait, certes, mais qui était acceptable pour la majorité des députés et susceptible d'améliorer la discipline sur la route. Aujourd'hui, il ne cache pas sa déception.
Il sera très difficile pour moi et pour la Chambre des députés d'accepter certains projets de modification de la loi. Surtout le projet de repousser l'entrée en vigueur de cette loi au début de 2007 est incompréhensible pour moi. C'est lié probablement déjà à une certaine stratégie électorale, et c'est dommage parce que nous avons besoin de la nouvelle loi dès maintenant.
Les autorités du premier arrondissement de Prague ont lancé un concours d'architecture doté d'un prix d'1 million de couronnes et visant à transformer la principale et la plus longue avenue de la capitale, la place Venceslas. Moins de circulation, moins de commerce et plus de verdure. Une image qui plairait bien aux Pragois, pour qui la place Venceslas est aujourd'hui, hélas, presque un lieu à éviter. Magda Segertová.
Les Pragois l'ont bien remarqué, artère principale de leur ville et lieu chargé d'histoire, la place Venceslas a perdu ces dernières années presque tout son charme. Trop commercialisée avec tous ses fast-foods et casinos installés dans des palais historiques, trop animée et polluée avec ses milliers de voitures qui traversent la place jour et nuit, l'endroit de promenade idyllique de jadis n'est plus ce qu'il était. Les projets de transformation de la place Venceslas, lieu quasi mythique, dominé par la statue équestre du patron des Tchèques, Saint Venceslas, ne datent pas d'hier. Depuis plusieurs années, on discute notamment d'un éventuel retour des trams qui, à l'époque de nos grands-mères, traversaient toute la place. Le lauréat du récent concours, dont le nom sera annoncé fin novembre prochain, un mois après la clôture des inscriptions, devra avant tout faire disparaître de la place les voitures. À cette fin, des garages souterrains seront probablement construits. Un autre casse-tête pour les architectes, comment faire dévier la circulation en haut de la place, à proximité du musée national, là où passe le périphérique ? La réduction du nombre des points de vente des journaux, fleurs, objets souvenirs et aussi des fameux saucisses tchèques est également prévue. Pareil pour les panneaux publicitaires, ils devraient pour la plupart céder la place au plan de la ville. Cabine téléphonique, banque, balustrade et poubelle avec un même design. Le futur monsieur Place Venceslas devra penser à tout. De nouveaux espaces verts, des fontaines et des trottoirs spacieux. Voilà à quoi on peut s'attendre sur les Champs-Élysées pragois, mais seulement dans 5-6 ans.
Il y a 2 siècles, naissait à Oberplan, Horniplana, dans le massif de la Schumava en Bohême du Sud, Adalbert Stifter, écrivain, nouvelliste, poète de langue allemande, mais aussi peintre, pédagogue et chercheur. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands représentants de la littérature autrichienne du XIXe siècle. En Bohême, par contre, il est relativement peu connu, bien qu'il puisse être considéré comme l'un des plus grands écrivains tchèques de langue allemande. Tandis qu'en Autriche, on organise à l'occasion de son bicentenaire de nombreuses manifestations dans le cadre de l'année Stifter, en Tchéquie, on ne l'évoque que rarement. Une initiative dans ce sens a été pourtant préparée par l'association Kulturvereins und Zeiten Linz, à laquelle on a invité des artistes et performeurs autrichiens, tchèques et allemands. Leur initiative prendra la forme d'un voyage culturel sur les traces de l'écrivain. Du 12 au 14 août, ils circuleront entre Prague et Linz dans le train du temps, train qui s'arrêtera à de nombreux endroits liés avec la vie et l'œuvre de l'écrivain. Ils se proposent de jeter sur ce classique un regard nouveau, irrespectueux et ironique, et le confronter avec les tendances de notre temps. Des lectures, des entretiens, des vols en ballon, des randonnées à cheval figurent au programme de ce voyage culturel. Dans le club Roxy à Prague, des textes de Stifter seront mis en musique par des rappeurs. On organisera aussi une promenade à Prague, où Stifter a situé l'action de son roman Vitico. Johann Lachinger de l'association Kulturvereins und Zeiten Linz.
Stifters Vitico ist ein historischer Roman, der in das 12. Jahrhundert zurückführt.
Le roman Vitico d'Adalbert Stifter met en scène un personnage historique du 12e siècle. Il se déroule à l'époque de Vladislav II, devenu plus tard roi de Bohême. Dans ce roman, Stifter met les nationalités tchèques et allemandes l'une à côté de l'autre. Il évoque l'égalité en droit des peuples, la coexistence dans la paix. Lorsque ce roman en 3 tomes est paru en 1867, Stifter espérait que son œuvre aurait un grand retentissement. Mais c'était déjà la période des confrontations tchéco-allemandes, et la réaction à son roman n'a pas été aussi positive qu'il espérait.
Stifter nicht mehr gehört wurde.
C'était Faits événements en République tchèque, une émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée aujourd'hui par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
Miroir de la société à la lumière de la presse. Alena Gebertova.
Cette année s'annonce plus tragique que les autres pour les touristes tchèques qui ont décidé de passer leurs vacances à l'étranger. Ils sont victimes d'accidents très divers. Nous évoquerons quelques cas tels qu'ils ont été décrits dans la presse tchèque. 66 Tchèques, un nombre plus élevé que l'année dernière, sont morts depuis le début de cette année dans une douzaine de régions touristiques recherchées. Leurs décès sont le plus souvent la conséquence d'accidents. L'été représente, on le sait bien, une saison à haut risque.
Selon le journal Mlada Fronta Dnes, c'est en Slovaquie que meurent le plus de touristes tchèques. Ils sont 13 à y avoir perdu la vie durant le premier semestre de cette année, le plus souvent en pratiquant l'alpinisme dans les Hautes Tatras. S'en suivent la Croatie et l'Allemagne. En Croatie, qui est la destination privilégiée des Tchèques, on estime même que ceux-ci détiennent la primauté du point de vue des statistiques portant sur les décès des touristes étrangers. L'explication, les Tchèques ne sont pas assez prudents et évaluent mal leurs capacités et forces, tant sur la route que sous les rayons du soleil ou en mer, font remarquer les délégués des agences de voyage.
Parmi les accidents tragiques qui ont retenu une grande attention cet été, on notera la disparition en mer d'un jeune homme de 18 ans qui, allongé sur un bateau gonflable, s'est laissé emporter par une brise au large des côtes sous les yeux désespérés de ses parents. Les sauveteurs, en hélicoptère ou en bateau, ne l'ont plus retrouvé. Un garçon de 14 ans s'est noyé en pratiquant la plongée sous-marine.
C'est pourtant la route qui fait toujours le plus de victimes. 4 Tchèques sont morts dans un accident particulièrement tragique qui a eu lieu il y a quelques jours en Espagne lorsque leur voiture a heurté un camion. Des Tchèques meurent aussi sur des routes en Italie, en Autriche, en France.
Un Tchèque de 24 ans a été tué lors d'un attentat terroriste à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Employé sur place par une agence de tourisme, il est devenu la première victime tchèque d'un acte terroriste. À noter que l'événement n'a pas découragé d'autres touristes tchèques à se rendre dans la région.
Ces dernières années, les Tchèques ont pris l'habitude de visiter des contrées éloignées. À ce propos, le quotidien cite les paroles de Ivan Zaleski, directeur du département consulaire du ministère des Affaires étrangères, qui dit « Souvent, les gens ne se préparent pas assez à leur voyage, même quand ils se rendent dans des régions exotiques, dans des localités à risque. »
Pratiquement chaque année, un ou plusieurs Tchèques sont portés disparus dans un pays étranger. On se souvient notamment de la disparition bouleversante de 3 étudiants tchèques, 2 frères et une jeune fille dans les montagnes d'Albanie, qui n'ont laissé aucune trace voilà 4 ans de cela ou de celle d'une alpiniste tchèque en Équateur. Cette année encore, un alpiniste tchèque a disparu, en Turquie cette fois-ci.
En dépit des risques certains qui les guettent, les Tchèques ne semblent pas prêts à renoncer à leur envie de voyager, un plaisir qui leur avait été si longtemps interdit sous le régime communiste.
Dans sa dernière édition, l'hebdomadaire Respect s'interroge plus largement sur ce que représente aujourd'hui le phénomène des vacances. Son titre est « On ne peut plus éloquent ». Les vacances idéales sont celles passées chez soi. Le journal cite les sociologues Zygmunt Bauman et Hanna Librova, selon lesquels le tourisme constitue aujourd'hui un plaisir de consommation superficielle, et de conclure
« Il est préférable de laisser pousser ses racines sur le site où l'on vit, de le connaître à fond, de prendre connaissance de toutes ses nuances, de suivre l'alternance des saisons et de tout faire pour qu'il devienne un véritable foyer que l'on n'aura pas très envie de quitter. » Mais au cas où l'on se décide quand même à partir en voyage, il y a toujours lieu de s'interroger sur ce que le voyage peut nous apporter et sur ce que nous pouvons apporter à l'endroit visité.
Apporter des médicaments ou de l'argent aux dissidents, s'il s'agit d'une visite à Cuba, en sera, selon l'auteur de l'article, un bel exemple. Écoutons pour finir la mezzo-soprano tchèque Magdalena Kožená, qui, 3 mois à peine après la naissance de son fils Jonas, s'est présentée en concert. Point étonnant, car comme elle l'a confié au magazine de Mlada Fronta Dnes, elle avait déjà recommencé à chanter 3 jours après son accouchement. Le public tchèque, qui a rarement l'occasion de la voir sur scène, tellement elle est sollicitée à l'étranger, a pu l'applaudir récemment à Kroměříž, en Moravie du Sud. Au printemps prochain, elle devra se présenter dans Peleas et Melisande de Claude Debussy sur la scène du Théâtre National de Prague.
Thank you.
Et c'est sur cette air d'Ambroise Thomas, dans l'interprétation de Magdalena Kojena, que se termine notre programme d'aujourd'hui.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.